Alors, je vais vous parler du djihad, bien sûr, mais il y a aussi, chez certains musulmans, l'idée qu'il y a deux formes de djihad. Le djihad guerrier, où on recourt aux armes ou à la violence, et le djihad spirituel. Alors, ce que les musulmans appellent le grand djihad, c'est le djihad spirituel, qui consiste justement à avoir une vie religieuse impeccable et à réformer aussi les mauvais penchants, soit de chacun des hommes, soit de moraliser la vie sociale. Ça, c'est le grand djihad. Ça se base sur une parole de Mahomet, qu'on trouve dans la Sunna. Mahomet aurait dit, en revenant d'une bataille qu'il avait gagnée, « Maintenant, nous avons gagné le petit djihad, autrement dit le djihad guerrier, il faut promouvoir le grand djihad, donc le djihad spirituel. » Mais dans le Coran, le djihad n'est que guerrier. Alors, le musulman vit constamment sous le regard de Dieu. Dieu est le premier, le plus grand, l'omniscient, celui qui sait tout. Si bien que tous les actes de la vie, même les plus profanes, sont placés sous le regard de Dieu. Mais c'est un regard que l'on ne peut pas approcher. Voyez ce que dit le Coran. Les regards humains, donc, ne sauraient atteindre Dieu, alors qu'il peut atteindre, lui Dieu, donc il peut atteindre les regards, il est le subtil, l'informé. Sourate 6, verset 103. Comme je vous l'ai dit hier, Mahomet est une créature avec ses limites, comme les autres hommes, et il n'a jamais prétendu à un rang supérieur. En fait, on peut déduire de tout ce qui précède que le Coran renforce la fragilité de l'être humain pour mieux affirmer l'absolu divin. Le Dieu du Coran est un Dieu qui domine, qui écrase, que l'on ne peut pas connaître. Voilà pourquoi bien des musulmans vivent dans la peur de Dieu, non pas la crainte révérentielle comme cela nous est demandé, mais dans la peur de Dieu, la peur du jugement de Dieu. Donc le Dieu du Coran n'est pas un Dieu père. Je vais vous donner le titre d'un récit très beau. C'est le récit de la conversion au christianisme d'une Pakistanaise née musulmane. J'ai lu ce récit, elle a découvert la vérité sur Dieu en lisant la Bible tout simplement. Et elle a intitulé son récit de cette manière. « Dieu, j'ai osé l'appeler père. » Je vous l'ai dit hier ça, non ? Non. « Dieu, j'ai osé l'appeler père. » J'ai insisté sur le verbe « oser ». Le livre est paru à Genève, excusez-moi, aux éditions de l'Eau Vive, en 1981, c'est ancien. Et elle s'appelle Bilkis Cher, c'est son nom. B-I-L-Q-U-I-S, c'est le prénom. Cher, S-H-E-I-K-H. Donc, en insistant sur le verbe « oser », ça peut montrer le déconditionnement extraordinaire nécessaire à un musulman pour découvrir et admettre la paternité divine. Donc, tout comme le musulman ne voit pas Dieu comme un père, lui-même ne se considère pas comme fils de Dieu. Il est créature de Dieu, lieutenant de Dieu sur la terre, intendant, gérer les affaires, gérer la création, mais il n'est pas fils de Dieu. Il y a un mot arabe qui définit l'identité du musulman, c'est abd, A-B-D, ça veut dire esclave ou serviteur. Et il y a un prénom très répandu dans le monde arabe, Abdallah, A-B-D, Allah, A-2-L-A-H, d'un seul tenant. Tiens, au sujet d'Allah, je voulais vous dire une chose. Dans la grande presse, en général, dans les pays européens, on dit Allah, c'est le Dieu des musulmans ou le Dieu du Coran. Ce n'est pas juste ça. Allah, c'est la traduction arabe du nom Dieu. Dieu en arabe se dit Allah. Et les chrétiens qui parlent la langue arabe, qui prient donc en arabe, eh bien ils prient Allah. Hier je vous ai dit qu'ils ne prient pas Aïssa, ils prient Yassou, vous vous rappelez? Par contre, pour Dieu, ils prient Allah. C'est le nom de Dieu en arabe. Et puis aussi une autre chose que je voulais vous dire, c'est qu'il est impropre de dire Dieu chrétien ou Dieu musulman. Dieu n'est ni chrétien ni musulman. Dieu est Dieu, bien sûr. Par contre, ce qu'il est correct de dire, c'est le Dieu des chrétiens ou le Dieu des musulmans. Vous voyez la différence, hein? Ou alors le Dieu de la Bible ou le Dieu du Coran, oui.
Du coup, dans la phrase, on devrait dire...
On devrait dire Dieu, bien sûr, oui, oui, oui. Bon, on le fait comme ça, mais c'est... Je trouve que c'est pas bien vis-à-vis des chrétiens qui prient en arabe, vous voyez. Ils prient Allah aussi, ils nous le disent. Voilà. Alors, il y a toujours la tendance de la grande presse de simplifier les choses. Ah oui, oui, pardon. Ah, pardon. Non, je continue. Donc, Dieu n'est pas Père, et vous comprenez à partir de là qu'une prière comme le Notre Père n'est pas possible pour un musulman. Quand nous prions Notre Père du ciel, évidemment, c'est un sens symbolique et adoptif, mais qui exprime une réalité surnaturelle et mystérieuse, mais une vraie réalité. Mais comme je vous l'ai déjà dit hier, tout ce qui relève, qui peut évoquer l'anthropomorphisme en Dieu est suspect chez les musulmans. L'anthropomorphisme, vous savez ce que c'est, hein, prêter à Dieu des attitudes humaines. Hein. Donc dans l'islam, Dieu n'accompagne pas l'humanité dans sa marche vers le salut. Il ne se mêle pas à l'histoire du monde. Il juge en se passant de l'homme. Il n'a pas voulu que l'homme coopère au salut du monde et des âmes. Et l'homme n'est pas invité à partager la gloire éternelle du Fils de Dieu. Alors, attendez, il reste un quart d'heure. Je vais définir ça quand même. Voilà. Oui. Quelques mots sur le bien et le mal. La question se pose, est-ce que Dieu est le créateur du bien et du mal? C'est une question très grave, bien sûr, mais comme il n'y a pas le péché originel et qu'il y a le mal dans le monde... J'ai lu certains intellectuels musulmans écrire que Dieu est l'auteur du bien et du mal. Alors, le Coran mentionne Satan, le démon, le chef des démons. Satan, selon le Coran, a été créé par Dieu. Il a été créé par Dieu pour tenter l'homme. Vous trouverez ça dans la sourate 7, versets 11 à 27. Donc Satan, on dit aussi Iblis en arabe, I-B-L-I-S. C'est Satan. Iblis, Satan, exerce une influence sournoise pour empêcher l'homme de confesser la souveraineté de Dieu et de se reconnaître musulman, c'est-à-dire soumis à Dieu. Alors donc, Dieu serait l'auteur du mal, et le Coran dit que le mal se trouve dans le cœur de l'homme, et qu'il y prend sa source. Voilà. L'âme ordonne énergiquement le mal. Sourate 12, verset 53. Et aussi, ça c'est terrible, le mal qui t'advient vient de toi. Sourate 4, verset 79. Je vous ai déjà dit que dès le début, le Coran explique que l'homme a été créé faible, mais aussi versatile, inconstant, inspirateur de ses propres pensées mauvaises. Alors concernant le bien et le mal, c'est Dieu qui décide, qui donne la qualification à tel ou tel acte, bien ou mal. Et Dieu dit dans le Coran, les musulmans disent dans le Coran, nous n'aurions pas été dirigés si Dieu ne nous avait pas dirigés. Sourate 7, verset 43, donc par la guidance coranique. Alors, face au bien et au mal, la définition du bien et du mal n'est pas d'ordre vraiment moral. C'est une qualification qui est donnée par Dieu. Alors, l'homme est placé devant un choix, opter pour le bien ou le mal. Normalement, les musulmans sont ceux qui pratiquent le bien. Ils sont parmi les vertueux, comme dit le Coran dans la sourate 3, verset 114. L'essence du bien, c'est l'obéissance à la loi de Dieu. L'essence du mal, la désobéissance à cette loi. Ce qui est mal, c'est la transgression de la loi révélée par un Dieu souverain. Quant au bien suprême, c'est la foi dans le Dieu unique et l'attestation de cette foi. Ça, c'est la foi. Alors, est-ce que les œuvres servent la foi, selon l'islam? Alors, normalement, le Coran dit que même les œuvres les meilleures sont vaines, ne servent à rien s'il n'y a pas la foi. Si un homme fait le bien sans avoir la foi, ça ne lui sert à rien. Sourate 18, verset 103. Cependant, les œuvres sont recommandées parce qu'elles contribuent à améliorer la foi. Elles perfectionnent la foi.